La cuisine buissonnière sur RCN, Christian Saquet.
Chers amis auditeurs de RCN, bonjour. Bonjour à vos techniciens son que nous avons aujourd'hui. Je ne le connais pas, mais on va faire connaissance. D'habitude, c'est Pierre et il a toujours faim quand l'émission se termine. Donc, je ne sais pas si là, ce nouveau technicien aura aussi faim. Je vous rappelle que la cuisine buissonnière, c'est tous les mardis de midi à midi et demi sur 90.7 en modulation de fréquence ou sur www.rcn-radio.org si vous n'êtes pas dans le réseau d'audition de Nancy. Merci aux auditeurs du bout du monde qui nous écoutent. J'invite tous les auditeurs qui souhaiteraient faire des remarques de le faire sur RCN. Donc c'est www.rcn-radio.org ou de me joindre directement sur mon adresse mail clcv.saquet@gmail.com. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler de l'échalote. Et vous aurez une recette d'églefin, puis la pause musicale, interprétée par Marie Espinoza. Après, je vous propose une soirée pizza, une crème brûlée vanille noisette, puis la recette rapide du tigre qui pleure. Mais nous aurons aussi du détail dans l'échalote, c'est très intéressant. J'invite les personnes qui seraient intéressées pour participer à notre émission, pour parler de leurs connaissances culinaires ou nous faire partager leur expérience, ou bien même devenir animateur à la radio, de prendre contact avec moi par le biais de mon adresse internet. Je renouvelle cette adresse, clcv.saquet@gmail.com. Sur RCN, écoutez la leçon de la différence.
RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Alors, je vais vous parler des échalotes. Qu'est-ce que vous savez des échalotes? Connaissez-vous vraiment ce légume? Souvent mis à la place ou avec les oignons, elle relève les plats. Crue ou cuite, elle peut être l'ingrédient d'une sauce. On en trouve de différentes variétés, de formes et de tailles différentes. Aujourd'hui, avec nous, découvrez comment choisir la bonne échalote selon vos préparations culinaires et ses bienfaits pour la santé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échalote? L'échalote, c'est une plante vivace, annuelle par son bulbe. Elle est très très voisine de l'oignon, mais sa forme est plus allongée et sa saveur a plus de finesse. Son nom scientifique est Allium ascalonicum, ou ail d'Ascalon, ce qui nous fait supposer qu'elle nous vient de Proche-Orient. On suppose. C'est au Moyen-Âge qu'elle a fait son entrée dans notre gastronomie. On la cultive aujourd'hui en Bretagne et dans le Val de Loire. Elle est aussi considérée comme une plante sacrée en Égypte. Le terme d'échalote désigne tant la plante que le bulbe. Elle est utilisée en fond de sauce ou dans les plats mijotés, mais aussi crue, finement hachée dans une salade. Sa culture est principalement dans l'ouest de la France. On la trouve durant toute l'année sur nos étals, ce qui nous permet de l'ajouter à beaucoup de recettes. Les gens ne savent pas qu'il y a des saisons quand même, hein. Alors, quels sont les atouts santé et nutrition de l'échalote? Eh bien, ce légume est utilisé comme un condiment. Il n'a pas d'impact calorique sur nos plats. Il est plus digeste que l'oignon et l'ail. Et elle renferme, comme eux, des substances soufrées qui sont responsables de son odeur, le goût, mais lui procurant aussi des propriétés protectrices du système cardiovasculaire. Riche en micronutriments. Elle contient un taux intéressant en vitamines C et B et en minéraux. Il y a du potassium, du calcium, du magnésium, du fer et du zinc. Quelle est la saison pour consommer l'échalote? Bien qu'elle soit disponible toute l'année, la pleine saison de l'échalote est quand même l'automne, au moment où on la récupère, là où on la ramasse. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est comment est-ce qu'on peut conserver l'échalote. Eh bien, conservez vos échalotes durant plusieurs mois dans un endroit sec, sombre, pour éviter la germination et au sec. Si elle est coupée, disposez-la dans une boîte hermétique très odorante, elle risquerait de contaminer d'autres aliments dans le réfrigérateur. Vous pouvez la conserver 2 ou 3 jours. Je vais vous parler maintenant de la cuisson. Alors, comment cuire l'échalote ? Eh bien, pour préparer l'échalote de la même façon que vous le feriez avec un oignon, coupez les deux extrémités et retirez la peau. Émincez-la dans le sens de la longueur, mais vous pouvez aussi la couper en transversale. Détaillez-la en petits dés. Vous pouvez l'additionner crue à vos préparations ou la faire cuire à la poêle doucement sans trop la colorer, ce qui la rendrait amère ou encore confite au four en chemise dans sa peau. Comment bien choisir les échalotes? Eh bien, comme pour l'ail ou l'oignon, faites appel à votre vue, à votre toucher, pour choisir les meilleures échalotes. Regardez tout d'abord la peau, aussi appelée tunique, qui recouvre l'échalote. Et puis, vous avez donc une bonne qualité, une échalote qui est de bonne qualité. Elle a une tunique brillante, mais surtout sèche. Passez ensuite l'échalote entre vos doigts et pressez-la délicatement. Elle doit être ferme au toucher et lourde dans la paume. Si elle est molle, reposez-la ou jetez-la si vous la récoltez dans votre jardin, car elle est en train de pourrir. Si vous sentez une forte odeur en pressant l'échalote, cela signifie également qu'elle commence à pourrir et qu'elle ne doit pas être consommée. Le réflexe à adopter. Pour profiter au mieux de toutes leurs saveurs, privilégiez les petites échalotes aux plus grosses. Alors, il y a plusieurs variétés d'échalotes. Il en existe deux grandes. Il y a l'échalote grise, cultivée exclusivement dans le sud et l'est de la France. Elle ne compte qu'une seule variété. Elle reste rare sur les étals et elle est reconnaissable à sa chair blanche, à la rigidité de son bulbe et à sa peau assez claire, très délicative. Ses arômes sont très puissants. C'est celle que je préfère. L'échalote rose, c'est la variété la plus répandue, car c'est aussi la plus simple à cultiver. L'échalote rose a un bulbe plus gros que sa cousine grise, mais une saveur moins prononcée. Quant à la couleur de sa peau et de sa chair, elles sont différentes pour chaque variété. Attention, cependant, car l'échalote rose a aussi plusieurs déclinaisons. Elle peut être ronde, longue ou encore demi-longue. C'est la variété la plus cultivée. Plus douce que les autres, cette dernière est reconnaissable à sa peau, aux teintes rosées ou rouges et à son bulbe arrondi. Alors maintenant, comment cuisiner l'échalote? Il y a plein de façons différentes. Hein. Chacun a ses manières. Je pense que chaque cuisinier a sa façon de les cuisiner. Mais il y a quand même des règles. Alors, l'échalote peut s'ajouter quasiment à tous les aliments salés, crus ou cuits. À de la viande, à du poisson, à des coquillages, des crustacés, à des légumes, à des féculents, pommes de terre, pâtes, riz et tous les autres. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser dans une sauce chaude ou dans une sauce froide. Donc, en définitive, on peut mettre de l'échalote dans tout. Alors, le top du top des cuisines avec de l'échalote, nous trouvons la rouelle de porc aux échalotes, le tartare de saumon frais à l'échalote, le merlu au citron et échalote, la bavette sauce à l'échalote, l'aile de raie sauce à échalote, la cuisse de canard sauce à échalote, une sauce à l'échalote au vin rouge, les flageolets à l'échalote et bien d'autres recettes encore que je vous proposerai dans nos émissions.
Midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN.
Alors maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien je vous propose de cuisiner de l'aigle fin en cocotte. Alors l'aigle fin se consomme frais ou fumé. Il est en France aussi appelé anon. C'est pas, il fait pas éant, hein, non. Hein. Lorsqu'il est fumé, il est souvent appelé par son nom anglophone de haddock. Les filets sont alors traditionnellement teints au roucou. C'est le colorant E160B qui leur donne une couleur orange vif semblable à celle de la mimolette. Donc le fromage, la mimolette, hein, tout le monde connaît. Dont la teinte est d'ailleurs obtenue grâce à ce même colorant alimentaire. Mais depuis 2018, certains magasins le proposent non teint. Alors pour 4 personnes, il vous faudra 600 à 800 grammes d'aigle fin, de la coriandre fraîche et ciselée. Pour la sauce, 50 centilitres de lait de coco, 30 centilitres de crème liquide, 50 grammes de pâte de curry jaune ou du madras fort, suivant votre goût, du sel et du poivre. Pour la fondue au poireau, il vous faudra 3 blancs de poireau, 2 échalotes, du beurre, du sel et du poivre. Pour commencer la recette, on va faire la sauce. Alors faites chauffer sur feu doux le lait de coco avec la crème liquide et la pâte de curry, assaisonnée de sel et de poivre. Arrivé à ébullition, coupez le feu. Nous allons maintenant nous occuper de faire la fondue de poireaux. Rincez abondamment les poireaux, puis coupez-les finement. Épluchez et émincez les échalotes, puis faites-les suer avec une belle noix de beurre. Ensuite, ajoutez les poireaux. Cuisez 10 bonnes minutes à feu moyen et à terme de la cuisson, assaisonnez-les. Puis, réservez-les. Pour la cuisson du poisson, préchauffez votre four à 180 degrés C. vous avez deux alternatives pour cuire votre poisson. Individuellement, dans quatre petites cocottes ou dans une seule cocotte. Dans le cas où vous avez des mini-cocottes, déposez dans chacune d'elles 200 g d'aigle fin, 50 g de fondu de poireau, puis enfournez pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés C. Au moment de servir, sortez vos mini-cocottes du four et nappez-les avec la sauce. Remettez au four juste le temps de remettre toutes les cocottes à la même chaleur. 2 minutes suffisent, hein, pas plus. Sortez vos cocottes et parsemez de coriandre et servez. Alors maintenant, je vais vous proposer, la musique. Une pause musicale avec Marie Espinoza. Et puis écoutez-la bien, parce que c'est une annonce amusante.
Charmante jeune fille de 25 ans, bouffait la vie à pleines dents, essaie de vivre intensément. Veut partager appartement. Jeune fille de 25 ans qui veut rêver le monde en grand, faudrait voir la vie autrement. Viens, montre-moi comment. Je n'annonce, toujours pas de réponse. Je n'annonce, j'attends votre réponse. Jeune fille de 25 ans, pas de mari et pas d'enfant, qui ne croit plus au prince charmant, se contenterait d'un bon amant. Jeune fille 25 ans passée, prendrait bien cours particulier pour voir la vie du bon côté. Aimerait se sentir troublée. Je n'annonce, jamais je ne renonce. Je n'annonce, j'attends votre réponse. Bien sûr, j'ai mes défauts, on me le dit assez souvent. Pourtant, j'ai le cœur grand de tant d'amour pour tous les champs. Jeune fille 25 ans et demi, qui pense, comme on le dit, que plus on est fou, plus on rit, se cherche de nouveaux amis. Jeune fille 26 ans demain, repasserai vos chagrins, ménagerai vos sentiments, vous garderai comme un enfant. Je n'annonce, toujours pas de réponse. Je n'annonce, j'attends votre réponse. Charmante jeune fille de 25 ans, se cherche désespérément, aimerait vivre de son talent. Recherche publique, assurément. Recherche publique, assurément. Recherche publique, assurément.
Midi 30, la cuisine buissonnière sur RCN. Christian Saquet.
Alors, chers amis, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on va passer à la soirée pizza maison. Je vais d'abord commencer par vous donner la recette de ma pâte à pizza. C'est la pâte à pizza que je faisais quand je travaillais en pizzeria. Il vous faudra pour 4 personnes 250 g de farine, 4 g de sel, 5 centilitres d'huile d'olive, 20 g de levure de boulangerie, de la levure fraîche, hein, 15 centilitres d'eau, un œuf. Alors vous allez commencer par mettre la levure en l'émiettant dans un bol. Puis ajoutez juste un tout petit peu d'eau tiède. Une cuillère à café, par exemple, suffisent. Et à pas plus de 25 degrés de chaleur. Remuez avec un agitateur tout simple, hein, en bois, ou bien même avec le manche de la cuillère à café, pour bien délayer la levure. Versez ensuite l'eau tiède dans un cul-de-poule ou une cuvette, et ajoutez la levure délayée, ajoutez l'œuf, puis le sel, l'huile. Battez bien pour que tout le liquide soit bien mélangé. Il faut vraiment bien mélanger. Il faut surtout que l'œuf soit bien dilué dans l'eau. Ajoutez la farine et mélangez pour agglomérer et obtenir une pâte homogène. Ensuite, pétrissez sommairement. Là, tout le monde est là en train de dire « Oh, ça colle, ça colle !» Vous rajoutez de la farine tant que vous pouvez. Tant que la farine est absorbée par la pâte, vous mettez de la farine. C'est ce qu'on appelle jusqu'à saturation. Ensuite, vous allez couvrir votre cuvette ou votre cul-de-poule avec un torchon humide et vous allez laisser la pâte pousser pendant une heure ou plus. Il faut que la pâte double au minimum de volume. Quand la pâte a bien poussé, récupérez la pâte avec les mains farinées sur le plan de travail, lui aussi fariné. Étirez-la un peu pour la dégazer entre deux mains, puis divisez-la en deux pâtons de même poids, c'est-à-dire que vous pesez votre farine et vous partagez en deux morceaux de pâte du même poids, et vous les laissez reposer 20 minutes. Au bout de ce temps, vous pouvez abaisser les pâtons en disques de pizza, au rouleau ou à la main, et puis vous allez maintenant garnir vos pizzas. Ben oui, mais vous n'allez pas les garnir comme ça. Il va falloir que vous le garnissiez avec une sauce tomate de base. Donc je vous donne d'abord la recette de la sauce tomate de base. Il vous faudra, pour 4 personnes toujours, 800 g de concassée de tomates, en boîte ou autre, 2 gros oignons jaunes, une échalote, 3 gousses d'ail grises, 10 cl d'huile d'olive, 4 g de thym ou d'origan sec, 5 g de sucre en poudre, 8 g de sel fin et 4 g de poivre fin. Alors la recette, elle est toute simple. Vous allez d'abord commencer par éplucher les oignons, l'échalote et les gousses d'ail. Ensuite, vous allez les ciseler finement. Versez l'huile d'olive dans une cocotte que vous mettez sur un feu moyen, puis faites suer pendant 2 ou 3 minutes l'échalote, les oignons et l'ail. Ensuite, versez la concassée de tomates et remuez bien, puis baissez sur feu doux 5 à 6 minutes. Après, ajoutez le thym, le sucre, le sel et le poivre. Mélangez bien avec une grande cuillère. Le mieux, c'est une grande cuillère en bois. Et puis, vous allez laisser ça pendant plus de 30 minutes à cuire. Votre sauce tomate passe partout et prête au bout des 30 minutes. Vous pouvez en préparer davantage pour en avoir toujours de disponible. Dans ces cas-là, elle se conserve comme ça au frais pendant 5 jours et vous pouvez aussi la congeler. J'ai bien ajouté, moi, 1 à 2 cuillères à soupe d'herbe de Provence quand j'en prépare d'avance. Il est possible aussi d'ajouter du lard gras, de la muscade et de faire cette sauce avec des tomates fraîches quand c'est la saison. Dans ce cas, il ne faut pas oublier de peler les tomates en les incisant en croix avant de les plonger dans de l'eau bouillante pendant 30 secondes, puis de les refroidir dans l'eau bien froide avec des glaçons. Pour appliquer l'utilisation de la base à pizza et la sauce de tomate de base, je vous propose de faire 2 pizzas pour essayer. Vous verrez que c'est super bon de faire vos pizzas entièrement à la maison.
RCN, la cuisine buissonnière, Christian Saquet.
Alors ce que je vous propose maintenant, justement, ben voilà, c'est la pizza cuisine buissonnière de RCN. Toujours pour 4 personnes, il vous faudra la pâte à pizza pour 4, donc 2 pâtons, 200 g de mozzarella fraîche, 75 g d'emmental râpé, une louche de sauce tomate à base ou coulis, un petit oignon ciselé, 50 g de champignons de Paris et un peu d'origan sec, un filet d'huile d'olive. Vous allez commencer par préchauffer votre four à 240 degrés. S'il fait plus, mettez-le à 250. Si possible, à chaleur tournante. Étalez la boule de pâte sur le plan de travail bien fariné, à la main, puis au rouleau. Étalez la sauce tomate sur la pâte en allant jusqu'au bout, au plus près du bord. Répandez votre oignon ciselé, puis votre champignon émincé dessus. Parsemez aussi votre pizza de mozzarella coupée en 2 dés. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi mettre du jambon déchiré en petits morceaux. Versez délicatement en fin filet d'huile d'olive en tournant au-dessus de la pizza avec la bouteille. Parsemez votre emmental râpé et l'origan sec, enfournez pour 10 minutes environ de cuisson et servez sans attendre. Vous pouvez cuire après le deuxième pâton dans les mêmes conditions.
Midi, 12h30, la cuisine buissonnière sur RCN.
Alors, après cette pizza que je vous souhaite de faire chez vous, tranquillement, le soir, là, autour de 4 autour d'une pizza, c'est super. Et puis, vous verrez, c'est quand même différent de manger une pizza qu'on fait que celle que vous achetez dans le commerce. Je vous propose maintenant une crème brûlée vanille aux éclats de noisettes grillées. Alors, pour 4 personnes, il vous faudra 50 centilitres de crème liquide à 35% de matière grasse. 6 jaunes d'œufs, 100 g de sucre en poudre, 120 g de cassonade, une gousse de vanille, 60 g de noisettes entières. Vous allez préchauffer votre four à 160 degrés. Mettez les noisettes sur une plaque de four. Enfournez pour 10 à 15 minutes pour torréfier les noisettes. Laissez refroidir puis concassez-les avec un rouleau à pâtisserie. Dans un cul de poule, blanchissez les jaunes d'œufs avec le sucre et la vanille grattée. Vous coupez la gousse de granit en deux, là, puis vous grattez avec un couteau. Hein. Incorporez la crème liquide, versez cette crème dans des ramequins, puis ajoutez les noisettes. Donc dans votre four qui est préchauffé à 160 degrés, normalement encore, mettez les ramequins dans un plat à bord haut, puis ajoutez jusqu'à mi-hauteur de l'eau chaude. Enfournez au bain-marie dans le four pendant 30 à 35 minutes. Laissez refroidir, puis saupoudrez de cassonade et glacez. Placé au réfrigérateur pendant 5 minutes. Vous pouvez caraméliser ensuite à l'aide d'un chalumeau. Cette dernière opération peut être faite plus tard, le lendemain par exemple, peut-être peu de temps avant de consommer vos crèmes brûlées. Vous faites aujourd'hui les crèmes brûlées, vous les mettez au frigo, et le lendemain vous allez les caraméliser pour les servir.
Midi 30. La cuisine buissonnière sur RCN. Christian Saquet.
La semaine dernière, vous avez eu une recette du tigre qui pleure. Alors, c'est une recette qui était un petit peu longue, qui était beaucoup plus compliquée que celle que moi j'utilise. Et alors, je vais vous donner aujourd'hui ma recette du tigre qui pleure, mais qui est justement celle-ci, elle est sans... comment dirais-je ? Elle est cuite, alors que la semaine dernière, vous aviez une vinaigrette qui n'était pas cuite. Alors, pour 4 personnes, il vous faudra 4 faux filets, un demi-bouquet de coriandre, une échalote, une gousse d'ail, 10 centilitres de sauce huître. Ça, c'est pas facile à trouver, hein. Moi j'ai cherché. 10 centilitres de sauce de soja salée, 10 centilitres de jus de citron vert, 3 centilitres de gnocchman, 3 centilitres de sauce chili, un petit piment vert ou végétarien. On va d'abord faire la sauce. Donc épluchez l'échalote et l'ail, puis émincez-les. Ouvrez le piment en deux et supprimez les pépins et ciselez-le. Faites chauffer dans une poêle ou dans un wok tous les ingrédients pendant 4 à 5 minutes. Ensuite, pendant ce temps-là, vous allez dégraisser et dénerver les faux filets. Dans une poêle bien chaude, snaquez les 2 faux filets. 2 minutes sur chaque face, puis coupez-les en tranches, servez avec la sauce refroidie et la coriandre dessus. Voilà, et je vous souhaite là alors franchement une bonne dégustation du tigre qui pleure, qui est fait beaucoup plus rapidement qu'avec la recette de la semaine dernière qui était très très longue. Notre émission se termine pour aujourd'hui. Vous pouvez la réécouter à tout moment en allant sur le podcast de Radio Caraïbes. C'est www.rcn-radio.org. Vous pouvez aussi faire des commentaires sur le podcast de l'émission et vous pouvez aussi découvrir sur le podcast de RCN d'autres émissions de toute nature, musique, culture, citoyenne. Je vous rappelle mon invitation à participer à notre émission de cuisine buissonnière en vous manifestant sur clcv.saquet@gmail.com. Merci à notre technicien son. Avec RCN, écoutez le son de la différence et à bientôt.